Que se passerait-il si on découvrait que le secret scientifique le plus puissant pour perdre du poids, bah, c'est pas les litres de sueur laissés sur un tapis de course?
Ouais, ça bouscule pas mal d'idées reçues, ça.
Totalement. Mais que ça se trouve plutôt dans la façon dont on pianote du pied sous un bureau, par exemple.
C'est fou, mais c'est exactement vers ça que pointent les données actuelles.
Parce que souvent, l'image classique de la perte de poids par le sport, elle est assez brutale et binaire, quoi.
Ouais, le fameux no pain, no gain.
C'est ça. On souffre à la salle, on brûle des calories, et paf, le chiffre sur la balance doit descendre.
Sauf que le métabolisme humain, il est beaucoup plus complexe qu'une simple calculatrice, en fait.
Grave. Moi, je dirais qu'il ressemble beaucoup plus à un comptable un peu sournois qui cache des fonds dans des paradis fiscaux.
C'est une excellente métaphore.
Et donc aujourd'hui, en ce mercredi 20 mai 2026, la mission de notre analyse approfondie, c'est de percer ce coffre-fort métabolique.
Tout à fait.
L'objectif, c'est vraiment d'extraire les meilleures recommandations scientifiques pour savoir quelles recommandations faire pour une personne qui souhaite perdre du poids dans sa pratique du sport.
Et si on relie cela à la situation dans son ensemble, la physiologie de la perte de poids, bah elle est truffée de paradoxes. Des paradoxes qui défient un peu le bon sens populaire d'ailleurs.
Et pour comprendre tout ce mécanisme, on a rassemblé une vraie montagne de données.
On a de quoi faire aujourd'hui, oui.
Ouais, on a sur la table des revues systématiques et des méta-analyses hyper récentes sur le IHIT, tu sais, ce fameux entraînement fractionné de haute intensité.
Le fameux IHIT, ouais.
Mais on a aussi des études absolument fascinantes sur l'homéostasie énergétique, la thermogénèse et ce concept un peu furtif qui dicte secrètement notre dépense calorique.
Sans même qu'on s'en rende compte la plupart du temps.
C'est ça qui est dingue. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par l'aspect le plus visible, l'exercice intentionnel.
D'accord.
Le manque de temps, c'est clairement le plus grand obstacle dans notre société moderne pour faire du sport.
Ah bah c'est l'excuse numéro un, c'est clair.
Et c'est pour ça que la littérature scientifique met massivement en avant le IHIT par rapport au bon vieux footing continu à intensité modérée.
C'est ça. Le HIIT, c'est vraiment devenu le standard or des recommandations pour les personnes pressées, en fait.
Ok, mais pour ceux qui ne seraient pas familiers, on peut définir rapidement ce que c'est.
Bien sûr, bah, pour faire simple, il s'agit d'alterner des pics d'efforts extrêmes.
Quand tu dis extrême, c'est genre à fond.
Ouais, c'est ça. On pousse la machine à 80 ou 95% de sa fréquence cardiaque maximale.
Ah ouais, on crache ses poumons, quoi.
Exactement. Et ça, on le fait pendant une courte période, 30 secondes à quelques minutes, et on alterne avec des phases de récupération active très douces.
D'accord.
Et l'avantage, c'est qu'une séance complète, ça dépasse rarement 20 à 30 minutes en tout.
Bah, l'attrait est super évident du coup. On fait le boulot d'une heure en une demi-heure.
Voilà. Mais en regardant les données globales de ces méta-analyses avant l'émission, il y a un élément qui m'a fait tiquer.
Je sens que tu vas parler du poids sur la balance. Exactement. Si on regarde la perte de poids pure, le chiffre brut en kilos, bah, le HIIT et l'entraînement modéré continu, ils donnent des résultats globaux similaires.
Et c'est là que beaucoup de gens se découragent.
Mais je comprends pas. On nous vend le HIIT comme la solution ultime pour maigrir, mais la balance bouge pas plus vite.
Eh bien, en fait, c'est le piège classique de la balance, ça. Se focaliser sur la masse corporelle totale, ça occulte complètement la véritable puissance métabolique du HIIT.
C'est-à-dire?
Les données montrent que le HIIT, il est largement supérieur pour modifier la composition interne du corps.
Ok.
Il va cibler de manière hyper agressive le pourcentage de masse grasse, et particulièrement la graisse viscérale, tu sais, celle qui entoure les organes.
Ah, la graisse dangereuse pour la santé.
C'est ça. Et au passage, ça réduit significativement le tour de taille, même si le poids global bouge peu au début.
Ah, attends, c'est comme réorganiser une grosse valise avant de prendre l'avion, en fait.
Une valise. Comment ça?
Bah, au début, on met la valise sur la balance de l'aéroport, elle pèse, disons, 20 kilos.
Ok.
On l'ouvre, on retire un énorme manteau d'hiver très volumineux qui représenterait cette fameuse graisse viscérale encombrante.
Je vois où tu veux en venir.
Et on remplace ce grand vide par des livres très denses et compacts, genre le muscle. On referme, on pèse la valise, 20 kilos.
Exactement, le chiffre n'a pas bougé.
Le chiffre n'a pas bougé d'un gramme, mais la forme de la valise, elle, est complètement différente.
C'est une excellente analogie, et ces livres denses y prennent beaucoup moins de place, ce qui modifie complètement la silhouette de la personne.
D'accord.
Et le mécanisme physiologique derrière cette transformation, il est assez fascinant. Il repose notamment sur ce qu'on appelle l'effet époque.
L'époque, c'est un acronyme.
Ouais, ça signifie excess post-exercice oxygen consumption, donc la consommation d'oxygène post-exercice en français.
Ok, et concrètement, ça fait quoi?
Bah, le choc métabolique du HIIT, il est tellement violent que pour ramener l'organisme à son état de repos, pour réparer les fibres et rééquilibrer les hormones.
Le corps galère en gros.
Voilà, le corps contracte une véritable dette d'oxygène. Donc il va continuer à surconsommer de l'énergie et donc à brûler des calories pendant des heures.
Ah ouais, longtemps après la séance ?
Très longtemps. On parle de 24 à 48 heures après la fin de la séance, dans certains cas.
C'est le fameux afterburn effect, alors ? En gros, on est rentré chez soi, on regarde une série, affalé sur le canapé, mais nos cellules continuent de tourner à plein régime.
Comme si on était encore sur le vélo, exactement. Le stress qu'on a imposé est tel que le corps, il a juste pas le choix.
C'est magique, un peu.
Et c'est pas tout. Il y a aussi une réponse hormonale massive. Les pics d'intensité, ils provoquent la libération de catécholamines.
Oula, c'est quoi ça ?
Des hormones, comme l'adrénaline par exemple, et ce sont de très puissants déclencheurs de la lipolyse, c'est-à-dire la destruction des graisses.
D'accord, je comprends mieux l'impact sur la graisse viscérale.
Et au-delà du gras, les données soulignent un impact majeur sur la santé cardiovasculaire.
Ah oui, j'ai vu ça dans les sources. Un truc sur les artères, non ?
Ouais, IIT améliore considérablement la rigidité vasculaire et la fonction endothéliale. En fait, ça favorise la vasodilatation grâce au stress de cisaillement.
Waouh, attends, pause. Fonction endothéliale, stress de cisaillement.
Oui, pardon, c'est un peu technique.
Tu m'as complètement perdu là. On parle de vaisseau sanguin, ok, mais concrètement, qu'est-ce que ce stress de cisaillement vient faire là-dedans ?
Ok, imaginons un tuyau d'arrosage. L'endothélium, c'est simplement la paroi interne de nos artères.
Ok, le tuyau, je l'ai.
Quand le cœur bat à 90% de sa capacité, pendant un sprint par exemple, le sang est propulsé à une vitesse et une pression phénoménale dans ce tuyau.
D'accord.
Ce flux ultra rapide, il frotte physiquement contre les parois des artères. Et bah, c'est ça le fameux stress de cisaillement.
Ah, ce frottement mécanique ?
Exactement. Et ce frottement, il force les cellules de la paroi à libérer de l'oxyde nitrique. C'est un gaz qui donne l'ordre aux artères de s'assouplir et de se dilater.
Ah, c'est génial !
Ouais, c'est un entraînement littéral pour la flexibilité de nos vaisseaux.
D'accord, bah l'image du tuyau d'arrosage, ça rend la chose hyper limpide. C'est vraiment de la mécanique des fluides appliquée au corps humain, en fait.
C'est tout à fait ça.
Mais du coup, pour obtenir cette fameuse restructuration de la valise, avec les muscles et ses artères super flexibles, il faut pratiquer à quelle fréquence ? Parce que je suppose qu'on ne parle pas de faire un sprint une fois par mois.
Non, en effet. Les méta-analyses, elles fixent un seuil assez clair là-dessus.
Qui est d'eux ?
Les adaptations métaboliques, elles deviennent statistiquement robustes seulement à partir de 6 semaines de pratique ininterrompue.
6 semaines, ok.
De 2 à 3 séances par semaine. En dessous de ce volume, bah, on améliore son cardio ponctuellement, bien sûr, mais on ne déclenche pas cette vraie recomposition corporelle de fond.
Le constat est posé, du coup. Le HIIT, 2 à 3 fois par semaine, pendant plus de 6 semaines.
Voilà le protocole de base.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, même en appliquant ce protocole à la lettre, il y a des milliers de personnes qui finissent par stagner.
Oui, les fameux plateaux.
C'est ça. La composition corporelle refuse de bouger, la fatigue s'accumule. Mais si ce type d'effort est si puissant que ça, comment on peut expliquer ces plateaux désespérants ?
Eh bien ça nous oblige à regarder l'autre côté de l'équation. Le tableau de bord global de l'énergie humaine.
Ok, on zoome en arrière.
Il faut vraiment décortiquer la dépense énergétique totale, ce qu'on appelle la TTE dans le jargon, sur un cycle complet de 24 heures.
D'accord. Comment ça se divise ?
On a d'abord le métabolisme de base. C'est l'énergie purement allouée à la survie de tes organes quand tu es au repos. Ça monopolise environ 60% de notre énergie.
Juste pour rester en vie, quoi.
Voilà. Ensuite, il y a la digestion, ce qu'on appelle la thermogenèse alimentaire, qui en prend à peu près 10 à 15%.
Ok, donc si je calcule bien, il reste grosso modo 20 à 30% pour le mouvement, l'activité physique sous toutes ses formes, c'est ça ?
C'est exactement ça. Et c'est précisément dans cette petite tranche de 20 à 30% que se cache la plus grande illusion de l'industrie du fitness.
Ah bon ? Quelle illusion ?
L'activité physique, elle se divise en deux catégories très distinctes.
Ok, dis-moi tout.
D'un côté, tu as l'EAT, pour Exercise Activity Thermogenesis. Ça, c'est le sport intentionnel, notre séance de HIIT, par exemple.
Le truc où on transpire exprès, quoi.
Exactement. Et de l'autre côté, tu as le NEAT, pour Non-Exercise Activity Thermogenesis. Et ça englobe absolument tous les autres mouvements de la journée.
D'accord, mais...
Attends, les chiffres sont brutaux. Pour un individu moyen dans nos sociétés modernes, le sport intentionnel, le AT, ne représente que 1 à 2% de la variation de sa dépense énergétique totale.
Pardon ?
Le NEAT, par contre, c'est le véritable mastodonte. C'est lui qui fait toute la différence.
Attends, je refuse de croire ces chiffres.
C'est dur à avaler, je sais.
Tu es sérieusement en train de me dire que la séance de 30 minutes où je crache mes poumons, où je crée cette fameuse dette d'oxygène incroyable, ça pèse mathématiquement moins dans la balance que mes petits mouvements du quotidien?
Oui.
Les maths me semblent pas logiques du tout, là.
Bah, c'est le choc que ressentent tous les chercheurs qui se penchent sur l'homéostasie, je te rassure.
Mais comment c'est possible?
En fait, le NEAT, il fonctionne sur le volume de temps, pas du tout sur l'intensité. Ce sont des toutes petites micro-dépenses, mais qui sont accumulées sur les 16 heures où nous sommes éveillés chaque jour.
Ah ouais, l'effet cumulé.
Voilà. Le fait de se tenir debout, de changer de pied d'appui, de faire les 100 pas quand on parle au téléphone, de gesticuler avec les mains, ou même simplement le tonus musculaire qui est nécessaire pour pas s'arrachir sur une chaise.
Ok. Et il y a vraiment des données chiffrées fiables pour prouver que ces micro-mouvements, mis bout à bout, ils surpassent une vraie séance de sport intense?
Ah oui, absolument. Il y a une étude fondatrice qui a été menée par le chercheur James Levine et qui a littéralement changé la donne dans ce domaine.
Il a fait quoi, ce Levine?
Son équipe, elle a voulu mesurer l'invisible, en fait. Ils ont recruté des volontaires souffrant d'obésité légère et des volontaires minces.
D'accord.
En s'assurant bien qu'absolument tous les participants étaient des sédentaires autoproclamés. Aucun d'entre eux ne faisait de sport.
Ok, donc zéro EIAT, que du NEAT potentiel.
C'est ça. Et pour capturer ce NEAT de manière ultra précise, ils ont carrément fabriqué des sous-vêtements équipés de capteurs de posture microscopique.
Des sous-vêtements avec des capteurs?
Ouais. Capable d'enregistrer la position exacte du corps toutes les demi-secondes, et ça pendant 10 jours complets.
C'est de la surveillance absolue du moindre tressaillement musculaire, ça. Et qu'est-ce que ces sous-vêtements technologiques ont révélé, du coup?
Ben, ils ont révélé une différence de comportement totalement inconsciente, vraiment ancrée dans la biologie des gens.
Genre quoi?
Les personnes minces, elles n'étaient pas plus actives sportivement, on le savait, mais elles passaient en moyenne 2 heures de moins assises par jour que les personnes obèses.
2 heures complètes?
Ouais, 2 heures à piétiner, à rester debout au lieu de s'asseoir, à flâner un peu. Et l'équipe de Levine a calculé que si les personnes obèses adoptaient simplement ces petits comportements NEAT de leurs homologues minces,
ouais,
elles brûleraient 350 kilocalories supplémentaires par jour.
350 kilocalories? Mais c'est l'équivalent calorique d'une vraie séance de cardio à la salle de sport.
Exactement. Et accompli simplement en n'étant pas avachi pendant 2 heures étalées sur la journée.
C'est dingue.
Et la projection sur une année, elle est encore plus vertigineuse, je trouve.
J'imagine, ouais.
Un déficit de 350 kilocalories par jour, sans même modifier ce qu'on met dans son assiette, bah, ça équivaut mathématiquement à la perte de près de 18 kilos de tissu adipeux en un an.
18 kilos en un an, juste en bougeant un peu plus sur sa chaise et en restant debout.
C'est ça. Et ça peut même aller beaucoup plus loin, tu sais. Si on compare un employé de bureau sédentaire et, disons, un travailleur du bâtiment, la différence de dépenses caloriques quotidiennes liée uniquement au NEAT, elle peut atteindre 2000 kilocalories.
C'est une remise en question totale de notre façon de concevoir l'effort, en fait.
Complètement.
On s'acharne sur l'intensité pendant des créneaux très stricts de 30 minutes, alors qu'on laisse s'évaporer le potentiel de milliers de calories le reste de la journée, juste parce qu'on reste cloué à un siège de bureau.
Bah, c'est le déclin technologique de notre environnement qui est le premier coupable, en fait.
Comment ça?
Les écrans, les voitures, les livraisons à domicile. Notre environnement moderne, il a tout simplement éradiqué le NEAT de notre quotidien. On n'a plus besoin de bouger pour vivre.
Ouais, on est devenu des cerveaux dans des bocaux, quoi. Mais du coup, ça soulève une question hyper importante pour moi.
Je t'écoute.
Si le NEAT, c'est le véritable moteur, le roi incontesté de la dépense calorique, à quoi bon s'infliger du IIT au final?
Ah.
Bah oui, autant annuler purement et simplement son abonnement à la salle de sport, s'acheter un bureau debout pour bosser, s'imposer un petit régime hypocalorique, et puis marcher un peu dans son salon. Logiquement, mathématiquement, ça devrait suffire pour fondre.
Bah, ça soulève une vraie question, en effet. Et c'est précisément ici que l'évolution humaine entre en scène pour saboter ce plan apparemment parfait.
Ah, l'évolution, toujours là pour gâcher la fête.
Toujours. Le corps humain, faut bien comprendre que c'est pas un réservoir d'essence qui se vide passivement.
C'est-à-dire?
C'est un organisme de survie hautement intelligent qui a été forgé par des millions d'années de famines régulières.
D'accord.
Donc que se passe-t-il physiologiquement lorsqu'on réduit drastiquement les calories, comme tu le proposes avec ton petit régime?
Ben, on maigrit.
Pour le comprendre, il faut analyser une étude vraiment marquante qui a été menée sur 140 femmes.
Ok.
Ces femmes, elles ont été soumises à un régime extrêmement restrictif de 800 kilocalories par jour.
Oh, waouh! 800 kilocalories, c'est un signal de détresse absolue pour le corps. C'est très largement en dessous du métabolisme de base, ça.
Oui, c'est de la famine. Et ces femmes, elles ont été réparties en 3 groupes pour l'expérience.
Lesquels ?
Un groupe sans aucun sport, un groupe soumis à un entraînement aérobie et un groupe soumis à un entraînement en résistance, genre musculation.
Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, chez le groupe qui s'est contenté du régime, sans aucun sport, les chercheurs s'attendaient à voir une baisse de leur métabolisme de base, ce qui est classique en restriction.
Ouais, le corps ralentit.
Et surtout mesurable de leur fameuse NEAT.
Attends, tu veux dire que leurs petits mouvements inconscients se sont arrêtés ?
De manière totalement involontaire, oui. Leurs dépenses énergétiques liées au NEAT a chuté d'environ 150 kilocalories par jour, soit une baisse énorme de 27%.
Mais comment c'est possible ? Elles s'en rendaient pas compte ?
Non. Le cerveau, il a perçu une famine imminente à cause de la limite des 800 kilocalories et il a pris le contrôle en sous-marin. Il a purement et simplement supprimé l'envie de se lever, d'agiter les mains en parlant, de faire les 100 pas.
C'est fou !
Les participantes, elles sont devenues léthargiques sans même en avoir conscience, juste pour préserver leur énergie vitale.
L'analogie avec nos téléphones portables est inévitable, là, en fait.
Vas-y, je t'écoute.
C'est comme un smartphone qui passe à 10% de batterie et qui déclenche tout seul le fameux mode économie d'énergie.
Exactement. L'écran perd de sa luminosité, le processeur ralentit et surtout le système d'exploitation ferme brutalement toutes ces petites applications en arrière-plan qui vidaient la batterie sans qu'on s'en rende compte.
C'est une super métaphore. Le corps humain a son propre mode d'économie d'énergie. Et le NEAT, bah, ça représente toutes ces petites applications en arrière-plan.
Et donc, face au régime, le corps ferme les applications du mouvement spontané.
Voilà. Mais ce qui est fascinant ici, c'est le résultat qu'ils ont obtenu pour les 2 autres groupes de l'étude.
Ceux qui faisaient du sport ?
Oui. Les femmes soumises au même régime de famine de 800 kilocalories, mais qui participaient en parallèle à un programme sportif régulier, eh bien, elles n'ont subi aucune baisse de leur NEAT. Attends.
Leur niveau d'activité spontanée, il est resté totalement intact.
C'est contre-intuitif au possible, ça.
Ouais.
Elles mangent très peu, elles dépensent encore plus d'énergie en faisant du sport, et leur corps passe pas en mode économie d'énergie.
Et non.
Mais comment le sport peut-il annuler le signal de famine du cerveau ?
Bah, l'exercice intentionnel vigoureux, il agit comme une sorte de bouclier neurométabolique.
Bouclier ?
Ouais. Bien que le mécanisme moléculaire exact soit encore à l'étude aujourd'hui, l'hypothèse évolutionniste la plus forte, c'est que le fait d'engager le corps dans un effort intense, ça envoie un signal très clair au cerveau.
Lequel ?
Nous sommes en mouvement, nous chassons ou nous fuyons un danger grave, donc il y a une nécessité absolue d'être actif pour survivre.
Ah.
Ce signal d'urgence, il annule carrément l'ordre de fermeture des fameuses applications en arrière-plan. Le métabolisme doit rester alerte.
Ok, là le rôle du sport vient de basculer complètement dans ma tête.
N'est-ce pas ?
L'intérêt d'aller transpirer à la salle de sport, c'est pas tant de brûler 300 calories sur l'instant, bêtement. Sa véritable valeur lors d'une démarche de perte de poids, c'est d'empêcher le métabolisme de se saboter lui-même le reste de la journée.
Tu as tout compris. Si on essaye de perdre du poids uniquement par la privation alimentaire sans sport, la chute inévitable du NEAT va grignoter, voire complètement annuler le déficit calorique espéré.
D'où l'échec des régimes stricts.
C'est l'explication scientifique fondamentale de l'effet yo-yo et des plateaux de perte de poids dont tu parlais tout à l'heure. Le sport intentionnel, il ne sert pas à creuser le déficit calorique, il sert à protéger ton métabolisme actif.
Waouh ! Donc, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Parce que notre mission, c'est de donner une recommandation claire.
Oui, tout à fait.
Si je veux appliquer ces découvertes dès demain matin, pour m'affiner de manière optimale, à quoi doit ressembler ma routine concrètement, sans tomber dans ce piège de la sédentarité compensée ?
Eh bien, il faut qu'on se voie une stratégie en 2 temps. Une stratégie qui est basée à la fois sur ta physiologie et sur ton environnement.
Ok, vas-y, je note. Le premier élément.
Le premier élément, c'est le stimulus. Il faut imposer au corps ce fameux HIIT, tu sais, 2 à 3 fois par semaine, de manière pérenne au-delà de 6 semaines.
Ça, c'est la base pour le bouclier.
Voilà. L'idée, c'est de créer cette fameuse recomposition corporelle, de vider la valise de la mauvaise graisse viscérale, de générer cette énorme dette d'oxygène post-effort et d'assouplir les artères avec le frottement du sang.
D'accord, on force le corps à maintenir son métabolisme hyper élevé, on lui signale qu'il doit rester fort et réactif pour la chasse ou la fuite.
Exactement, on pose le bouclier métabolique.
Très bien, et pour les 23h30 restantes de la journée, on fait quoi ?
Ah bah non ! Les études nous montrent très clairement qu'il faut réintroduire de la contrainte physique volontaire dans notre monde moderne qui est devenu beaucoup trop confortable.
Concrètement, ça ressemble à quoi ?
Travailler debout une partie de la journée. Se lever systématiquement pour répondre au téléphone et faire les 100 pas. Abandonner les transports motorisés pour des trajets très courts.
Ouais, prendre les escaliers, ce genre de truc, classique mais vrai.
Oui, l'objectif c'est d'accumuler mine de rien ces fameuses centaines de kilocalories invisibles tout au long de la journée.
En fait, on sort complètement du schéma archaïque où le sport était juste une petite case isolée dans un agenda.
Totalement. L'élégance de ces recommandations scientifiques récentes, c'est la synergie entre les deux.
Ouais, d'un côté, on a la puissance de frappe du HIIT pour pirater les hormones et bloquer le mode économie d'énergie du corps.
Oui.
Et de l'autre côté, on a le mouvement perpétuel, presque insidieux, du NEAT qui vient vider les stocks de graisse en douceur, du matin jusqu'au soir.
C'est un résumé parfait. On ne peut pas, tu sais, surentraîner ou compenser une journée entière passée sur une chaise.
C'est une phrase encadrée, ça.
Et cette double approche, elle a le mérite de respecter à la fois nos contraintes de temps moderne, avec le HIIT qui est rapide, et la machinerie biologique complexe, héritée de nos lointains ancêtres.
C'est fascinant.
Mais pour clore cette exploration sur une note qui va encore bousculer quelques certitudes...
Ah, tu as gardé un dernier truc sous le coude ?
Oui, il existe un pan de recherche fascinant dans nos sources concernant notre tolérance innée à la prise de poids.
C'est-à-dire ?
Des chercheurs comme Rudolf Lebel, ils ont mené des expériences incroyables de suralimentation volontaire.
De suralimentation. Genre, ils forçaient les gens à trop manger.
Exactement. Ils ont forcé des individus en bonne santé à ingérer jusqu'à 8000 kilocalories par jour, juste pour observer la résistance de leur corps à un gain soudain et massif d'énergie.
8000 kilocalories ?
Oui.
Mais c'est le cauchemar métabolique absolu.
Le corps doit stocker ça massivement sous forme de graisse, c'est juste mathématique à ce stade.
Eh bien, l'observation a révélé une disparité absolument sidérante entre les différents participants.
Ah bon ?
Face à cet afflux démesuré d'énergie, il y a certains individus qui voient leur NEAT exploser spontanément.
Tout seul.
Tout seul, sans qu'ils le veuillent. Ils se mettent à transpirer légèrement, à bouger constamment sur leur chaise, à marcher beaucoup plus vite, à gesticuler sans arrêt.
C'est ouf ! Leur corps dissipe littéralement des milliers de kilocalories sous forme de chaleur et de petits mouvements incontrôlés, tout ça pour résister à la prise de poids.
Donc ils ont une espèce de chaudière interne qui s'emballe automatiquement pour brûler le surplus. Et les autres alors ?
Eh bien les autres individus, eux, ils déclenchent pas du tout cette alarme thermogénique.
Mince.
Leur niveau de NEAT reste complètement plat. Et donc cet énorme excédent calorique, il est silencieusement dirigé vers les adipocytes pour y être stocké sagement sous forme de graisse.
Waouh ! La véritable loterie génétique en fait.
C'est exactement ça.
Mais tu te rends compte de ce que ça implique ? Et si le combat contre la prise de poids, bah, ça dépendait pas uniquement de notre fameuse volonté de faire face à un régime ou face à l'effort, mais plutôt de cette programmation biologique profonde.
C'est la grande question que posent ces recherches, oui.
Sommes-nous nés avec le gène de l'activateur de NEAT, prêt à brûler les excès dès la première surchauffe, ou avec celui du conservateur, qui est programmé par l'évolution pour stocker la moindre calorie en prévision d'un hypothétique hiver rude ?
C'est ça.
Franchement, c'est une réflexion qui change complètement notre regard sur la gestion de la santé. Et surtout, je trouve, qui allège un peu la culpabilité, le fardeau mental de la lutte contre la balance pour plein de gens.
Je suis tout à fait d'accord. Le corps est malin et il faut apprendre à faire équipe avec lui, plutôt que de lutter contre.
Une super conclusion. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le cerveau est bien rempli.
À très vite pour de nouvelles données.
Allez, gardez votre NEAT élevé et à la prochaine.